est reconnue par la Commission de reconnaissance et réparation, mais elle ne prenait pas en compte les victimes de Laïc. Les pères de Betaram veulent indemniser désormais ces dernières grâce à la vente des quelques biens immobiliers.
Merci Cécile Mérieux.
RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
Tous les matins, on s'efforce de vous tenir au courant de la santé du pape François avec des bulletins qui sont rédigés de manière, je ne dis pas contradictoire, mais enfin on essaie de donner des éléments fiables, précis. On vous dit que le pape François est hospitalisé à Rome pour une pneumonie des deux poumons. Ça, vous le savez, c'est depuis le 14 février à l'hôpital Gemelli. Il y a toujours un état de santé qui est réservé, mais quelle réalité mettre derrière ces mots? Il y a beaucoup d'incertitudes. Il a été victime d'une nouvelle crise respiratoire sévère hier et les médecins restent donc réservés, c'est le terme officiel, sur l'évolution de son état de santé. Quoi qu'il en soit, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir si l'absence ou l'éclipse du pape François pose un problème en fait dans la situation que nous connaissons. Et comme on a décrit tout à l'heure la situation des États-Unis à l'égard de l'Ukraine, on se dit que y a peut-être urgence à ce qu'il y ait des personnalités qui élèvent la voix, des consciences morales qui puissent élever la voix dans ce monde. Avec Laurent Geoffrin et Éric Nolot, on va essayer de se poser cette question-là. Laurent Geoffrin, et qui, je le rappelle, est écrivain, critique littéraire, et journaliste, pardon, essayiste, fondateur du média numérique Le Journal Info, et Éric Nolot, écrivain, critique littéraire et chroniqueur. Voilà, c'est dit, ils se connaissent bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette absence du souverain pontife, absence en pointillé, Éric Nolot?
Combien le Vatican, combien de divisions, demandait Staline. Donc, je ne crois pas que, même si le pape était en pleine possession de ses moyens, sa voix porterait jusqu'au Kremlin ou jusqu'à la Maison-Blanche. Mais c'est vrai que dans une époque de déraison, on aimerait bien entendre une voix de la raison qui en appelle à d'autres principes que la force brute, que la violence, que la vérité des armes. En effet, ça nous
manque. On les cherche un peu, ces voix, dans le monde.
Oui, mais c'est parce qu'elles sont inaudibles. D'ailleurs, ce n'est pas les seules. Regardez, aux États-Unis, les démocrates sont portés disparus. Donc, en fait, toute voix qui n'est pas sur le côté belliciste ou alors du côté de la soumission à la force brute a du mal à se faire entendre. Après, d'un point de vue plus général, je trouve qu'une voix comme celle du souverain pontife qui est du côté de la spiritualité, c'est toujours utile en ces temps de matérialité, en matérialisme en roue libre. Voilà, donc ce serait effectivement beaucoup plus de l'ordre du symbolique que de l'effectif. Mais oui, cette voix nous manque, d'autant qu'il n'y a pas de voie de rechange.
Laurent Geoffrin.
Éric parle d'or. C'est vrai que c'est la parole papale ou pontificale est une référence morale. Mais son efficacité pratique est souvent faible, il faut bien le reconnaître. Dès qu'il y a la guerre, les voies de la charité et de la solidarité sont étouffées. On dit toujours que c'est la vérité qui est la première victime d'un conflit, mais c'est aussi le discours de la tolérance, évidemment.
Est-ce qu'il y a un moyen de passer par les religions comme canal diplomatique, d'apaisement?
Mais là, je réfléchissais, parce que les Russes, ils ne sont pas très catholiques, et les Américains non plus. Enfin, ils ont des catholiques aux États-Unis, mais enfin, Trump, il s'appuie plutôt sur les évangéliques, c'est une forme de protestantisme un peu mystique, comme ça. Et donc, la parole du pape, alors là, ici, il s'en fout totalement. Quoi.
D'autant qu'il y a des précédents qui sont plutôt houleux, culturels, entre le pape argentin, le pape le président américain.
Mais la position du pape sur le conflit ukrainien était plus ambiguë que pouvait être celle de l'Europe, autant que je me souvienne, non?
Oui, tout à fait. Alors, soit il a été mal compris, soit il y avait eu la question de l'interview qu'il avait donnée dans une chaîne de radio suisse où il avait parlé de drapeau. Et les Ukrainiens l'avaient pris comme l'anticipation d'une reddition. Alors, on a eu plusieurs échos selon lesquels ça avait été mal interprété. C'est souvent comme les interviews d'ailleurs du pape dans l'avion. C'est souvent sujet à caution et souvent mal interprété. Mais enfin bon, il y a eu cette position médiane qu'il a tenté de jouer entre les deux univers. Ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être essayer de lui attribuer. Éric Nolot.
C'est mieux que rien, mais c'est pas grand-chose. On l'a rappelé, ils sont pas... En effet, ils ne sont pas catholiques. Et de toute manière, par exemple, pour prendre le cas russe, leur rapport à la religion est très, très différent. Vous avez quand même les popes qui bénissent les armées, qui montent au front. Enfin, c'est quelque chose de très, très différent. Donc là, la religion ne joue absolument pas un rôle d'apaisement, d'intermédiaire. Ouais. Elle est là pour renforcer le discours patriotique, belliciste. Donc les appels du pape, si vous voulez, je ne pense pas que ça empêche de dormir M. Poutine.
Parce que les popes de Moscou et de Saint-Pétersbourg insultent les popes de Kiev.
Oui, en plus. Il y a une rupture entre les deux.
Interne à l'orthodoxie. Là.
Quelle image pour le christianisme? Vous trouvez que c'est un christianisme
Bon, écoutez, moi j'ai un pied dans le catholicisme par mon éducation et un pied dans l'orthodoxie pour des raisons sentimentales. C'est vrai que cette cassure entre
comment les vivez-vous?
Ben, je le vis très bien parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses en commun qui nous rapprochent plutôt que de choses qui nous séparent. Donc l'histoire, évidemment, a fait son œuvre, mais je trouve ça un peu burlesque, pour vous dire. Je pense que les principes restent les mêmes, mais qu'en effet, la politique fait qu'on a l'impression de deux camps opposés, que l'orthodoxie fait partie de l'affrontement Est-Ouest maintenant. L'orthodoxie d'un côté et le reste de la chrétienté de l'autre.
Laurent Geoffrin, est-ce qu'on peut caporaliser la religion ?
Ben, ça s'est vu, hein.
Oui, ça s'est vu. Ben,
on a essayé de sortir de ça, quand même.
Les prêtres orthodoxes, ils sont militants, ils sont engagés presque militairement. Quoi. Mais c'est vrai que l'Église catholique a évolué différemment. Elle a pris des positions plus, conformes aux valeurs initiales. Elle s'est pas, elle a longtemps été le soutien des rois. Ou le soutien même des dictateurs, parfois, pendant la guerre.
Leur contradicteur aussi.
Comment ?
Souvent, elle était le contradicteur des rois.
Aussi, il y avait les deux. Enfin,
vous avez écrit une histoire de France.
Oui, mais l'Église de France, pendant l'occupation, massivement, était plutôt pour le maréchal. Et puis après, il y a Monseigneur Saliège et d'autres qui ont pris des positions tout à fait courageuses et honorables. Mais c'était une minorité. Après la guerre, l'Église a rejoint finalement ou vice-versa, le discours général sur la nécessité de faire prévaloir le droit et le compromis entre les nations. Ça, c'est vrai. Et donc, elle a été utile de ce point de vue-là.
Si je boucle avec le discours que vous aviez avant, c'est-à-dire qu'il faut se préparer à la guerre va venir, l'Europe n'est pas prête, etc. Finalement, le discours universaliste sur les valeurs était assez commode à tenir sous le parapluie américain, parce que ça engageait relativement peu. Maintenant que nous sommes engagés au pied du mur, est-ce que le discours que l'on doit tenir, que les religions doivent tenir, doivent s'aligner d'une certaine façon sur ce que fait l'orthodoxie de l'autre côté. C'est-à-dire, est-ce que l'Église catholique doit devenir la sacristie d'une nouvelle armée qui va protéger l'Europe de l'invasion poutinienne ?
Bah, je pense que ce serait tragique. Ce serait tragique qu'un lieu un peu excentré, qui porte une parole à un tout autre niveau, se mêle de... Des affaires de la guerre, vraiment mettre les mains dans le cambouis. Je crois que ça doit rester.
Mais elle a été avec Jean-Paul II à l'époque du rideau de fer.
Oui,
elle a
c'est
été
vrai.
Quand même l'aumônerie du camp du bien. À
oui, non, mais c'est vrai. Mais ce n'était pas une guerre. Il y avait une sorte de guerre de libération, si on veut, notamment de la Pologne. Mais là, la question que vous posez, c'est est-ce qu'elle devrait s'engager dans le cadre d'un conflit ouvert ? Voilà. Alors ça, je trouve ça extrêmement différent. Je trouve que c'est catastrophique. Parce qu'elle doit rester, elle doit planer quand même beaucoup plus haut que ça. Ce serait tragique. Puis alors là, en plus, il y a déjà une guerre de civilisation. Mais si en plus vous transformez ça, enfin, c'est pas vous, hein, c'est un vous collectif. Si vous transformez ça en affrontement officiel entre le catholicisme et l'orthodoxie, là, c'est la fin des haricots.
C'est ce que justement voulait éviter, je pense, le pape François.
Bah oui, bah ça, écoutez, là, grâce lui en soit rendue.
Mais si on entre dans une nouvelle ère, parce que vous avez parlé d'une nouvelle ère, ça rebat quelque peu les positions.
Oui, mais on ne va pas demander à l'Église de prendre parti pour un camp ou un autre, ce n'est pas son rôle. Son rôle est de rappeler les valeurs éternelles, enfin, éternelles, depuis 2000 ans.
C'est déjà pas mal.
Mais par contre, le ciment des Européens, il n'est pas identitaire, il n'est pas national, parce que ces pays sont très différents les uns des autres. Notamment entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Et puis chaque pays a une longue histoire et une personnalité très particulière. Mais ce qui réunit les Européens, c'est la volonté de défendre un certain nombre de principes de liberté. C'est ça le fond de l'affaire. Et il y a une trahison américaine de ce point de vue-là, parce qu'en principe, les États-Unis, ils avaient comme symbole la statue de la liberté et l'idée qu'ils avaient une destinée manifeste qui était de répandre cette liberté dans le monde. C'était une théorie, hein, mais ça existait, c'était un mythe. Quoi. Et Trump a complètement abandonné ça, il a fait tomber la statue de la liberté dans l'eau, mais maintenant c'est la grandeur américaine qui compte. Ce qui est une tradition aussi aux États-Unis. Le premier Roosevelt, Theodore Roosevelt, avait à peu près les mêmes conceptions. La veille de Pearl Harbor, Lindbergh, vous savez, l'aviateur, avait fait un mouvement politique « America First », qui dénonçait de manière extrêmement virulente toute velléité d'intervenir dans le conflit européen entre les Anglais et l'Allemagne, enfin l'Allemagne nazie. Quoi. Ils étaient d'ailleurs sympathisants plutôt des nazis que des Anglais.
Oui, Lindbergh.
Lindbergh, oui. Et c'est l'attaque de Pearl Harbor a tué son mouvement. Mais s'il faut attendre que les États-Unis soient attaqués pour qu'ils retombent du bon côté, on peut attendre longtemps.
Enfin, ce qui est cruellement paradoxal, c'est que Reagan, auquel se réfère Trump très, très souvent, a détruit l'Union soviétique et que M. Trump contribue à ce qu'elle se reconstitue. Puisque, en fait, c'est le but de Vladimir Poutine, quoi, la reconstituer au maximum. Il a dit que c'était la plus grande catastrophe du XXe siècle, la disparition de l'Union soviétique. Il est en train de réparer ce qui est pour lui un dégât historique. Donc il y a quelque chose de très, très paradoxal, en effet, dans toute cette histoire.
Avant, on fuyait vers l'Ouest, quand il y avait le rideau de fer. L'Europe était perçue comme le refuge, le sanctuaire. Et on jouissait aussi de cette position de piédestal moral. On a l'impression que ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, qu'on ne nous envie pas. Quand je dis « nous », c'est l'Union européenne. Quand on voit, par exemple, la situation en Roumanie aujourd'hui, les tensions qu'il y a en interne, on pourrait se dire la Roumanie, être dans l'Union européenne, c'est quand même beaucoup mieux que d'être dans l'orbite ex-soviétique. Mmh. Et c'est pas si évident que ça.
Oui, parce que les Ukrainiens, eux, ils veulent devenir européens. Ils estiment qu'ils sont européens, ils veulent le devenir sur le plan politique et géopolitique. Donc il y a quand même une force d'attraction de ce système. Parce que c'est vrai que l'Europe est désunie, qu'elle ne joue pas de rôle fondamental dans les relations internationales, tout ça est vrai. Mais il ne faut pas oublier les forces. On a des forces. On a des forces latentes. On ne les utilise pas vraiment, mais on a une force économique qui est très supérieure à celle de la Russie et qui est pratiquement, pas égale, mais pas loin à celle des États-Unis. Dans la guerre commerciale, les États-Unis vont perdre aussi, hein. Parce qu'on va mettre les mêmes droits de douane. Donc tout le monde va si on fait le calcul, ça fait 30% de droits de douane, ça fait 6% d'inflation dans l'année, arithmétiquement parlant. Et donc les deux pays vont se retrouver avec une inflation plus forte. Enfin, avec des prix qui vont monter, en tout cas. Et le commerce international va se ralentir, ce qui va ralentir la croissance mondiale. Et tout le monde va y perdre. C'est ça qui va se passer. Et donc les États-Unis aussi. Donc politique isolationniste et protectionniste va rencontrer quand même assez vite une limite, puisque les Américains, le citoyen américain vont en pâtir.
Mais vous parliez il y a quelques secondes de l'attractivité perdue de l'Ouest. Il y a un an ou deux, Anne Niva a fait un bouquin formidable où elle est allée de part et d'autre du front en Ukraine et en Russie. Moi, la phrase que je retiens, phrase foudroyante, elle interroge un Russe et le Russe lui dit: qu'est-ce que vous voulez qu'on en ait à faire de la liberté? Les magasins sont pleins ici. Donc en fait, la liberté, nous, on en a plein la bouche, juste titre, hein, vraiment, c'est un mot chéri, un mot sacré. Mais pour des tas de gens à l'Est, ils s'en fichent. Eux, les magasins sont pleins, ça va bien, je crois très bien à Moscou, malgré...
Ce qui n'était pas le cas à l'ère soviétique.
Non, mais du tout. Mais simplement, voilà. Donc, vous reparlez de la liberté, on s'en fiche, la souveraineté de l'Ukraine, mais on s'en fiche, tout ça est secondaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais dans les magasins, tout est plein, comme à l'Ouest auparavant, on y est arrivé. On prend ce qui nous paraît essentiel à l'Ouest, c'est-à-dire la prospérité, et on laisse des valeurs qui ne sont pas les nôtres, qui n'ont jamais été les nôtres. La Russie n'a jamais été du côté de la liberté, hein. Ça a été le Knout du Tsar, ça a été le Goulag de Staline, etc. etc. Donc, il y a quand même une habitude, malheureusement, à vivre dans des régimes autoritaires que nous ne parviendrions pas, j'y suis arrivé, à supporter, mais qui, pour beaucoup, je ne dis pas tous les Russes, évidemment, mais leur conviennent tout à fait.
Sur le pape François, pour conclure un petit peu sur sa position aujourd'hui, est-ce que c'est difficile d'être entendu dans les sociétés démocratiques européennes, parce que l'Église a des positions qui sont tout à fait récusées par certains sur l'aspect moral de sa démarche, sur les mœurs, et on attend qu'elle soit une sorte de Dalai Lama sur la géopolitique. C'est pas un peu contradictoire, Éric Nolot, Laurent Geoffrin? Enfin, contradictoire, difficile à tenir.
Non, je crois pas. Enfin, c'est
on veut bien vous écouter là, mais là-dessus, non.
On a le droit de choisir quand même, on n'est pas obligé de...
C'est le droit d'inventaire.
Oui. Enfin, si on est catholique, c'est un peu différent. À ce moment-là, le pape a une autorité naturelle pour les catholiques. Mais si on n'est pas vraiment catholique, moi je suis de formation, je suis élevé dans la religion catholique, mais je suis plus croyant. Donc, dans ce que dit le pape, je prends ce avec quoi je suis d'accord et je laisse de côté ce qui me paraît pas juste.
Vous l'avez chiffré en pourcentage?
Non. Non, mais c'est vrai que c'est plutôt sur les mœurs. Mais c'est pas fondamental, parce que l'Église a une influence dans la société, mais elle ne prétend pas régenter les mœurs françaises. Elle a abdiqué de cette prétention qu'elle a eue très longtemps. Et maintenant, elle nous laisse libres, finalement. elle essaye de nous attirer à elle, mais elle nous laisse libre. Donc, c'est pas, elle défend ses positions, c'est légitime, mais c'est une discussion, comment dire, amicale, quoi.
Et avec les affaires qui la touchent, encore celle de Bétharram, dont on parlait
oui, ça
récemment, ça rend sa parole encore plus délicate à tenir.
Ah bah oui, et puis surtout que... Malheureusement, on parle de là, on parle de quelques cas, voilà, quelques établissements. Mais en fait, c'était, je parle pas des violences sexuelles, mais par exemple la violence physique, c'était systémique. Moi, je peux en témoigner. Hein. J'ai été élevé dans une institution catholique, d'ailleurs du Pays Basque, où en effet la violence physique était extrême. Alors, pour les violences sexuelles, je mets ça à part. J'ai pas vraiment eu connaissance de quoi que ce soit. Mais les sévices étaient monnaie courante.
Vous en avez subi, Rick Nolot ?
Mais évidemment.
Mais de quelle nature ?
On prenait des claques, mais vraiment des bonnes claques. Hein. On prenait des bonnes claques. Moi, j'ai quand même vu c'était le rez-de-chaussée, vous me direz. Enfin, un prof balancé par la fenêtre un élève. On avait un professeur de maths, qui était d'ailleurs un ecclésiastique, qui était un sadique, qui d'ailleurs a fini par se faire démonter dans la cour de récréation en fin d'année, parce que c'était un sadique. Alors, c'était à la fois des déviances... Non, mais c'était à la fois des déviances personnelles et un système. C'est-à-dire qu'on pensait que la violence physique faisait partie du système d'enseignement. Donc, je peux vous annoncer, je ne suis pas Madame Irma, mais je peux vous dire que des affaires comme ça vont sortir, parce que des générations entières ont subi ça, plus ou moins. Voilà. Donc, ça, c'est la parenthèse. Sinon, sur votre question, y a deux niveaux d'analyse. Il y a ce qui relève du ciel et de la terre. On ne s'attend pas à ce que le pape, tout d'un coup, prenne position pour l'euthanasie ou l'avortement. Les grands principes sur les mœurs, je ne vois pas comment l'Église pourrait évoluer. Après, par exemple... que quand le pape appelle à la paix, parce qu'il se met au niveau de l'individu, il faut savoir ce que c'est qu'une guerre, c'est effroyable, c'est pas M. Poutine, c'est pas M. Trump, c'est même pas M. Zelensky, c'est les gens sur le terrain qui vivent dans des conditions épouvantables, qui meurent dans des conditions épouvantables, je trouve que l'Église est dans son rôle. Là, je l'écoute. Sur les mœurs, je l'écoute aussi, mais je ne suis pas obligé, même en tant qu'individu élevé dans la tradition catholique, de me conformer à toutes les opinions de l'Église.
Allez, à présent, Laurent Geoffrin, Eric Nolot, je vous propose de parler de ces annonces immobilières un petit peu insolites, parce que ça dit quelque chose aussi de l'évolution de la société. On parlait tout à l'heure d'une nouvelle ère qui s'ouvre avec Donald Trump, mais il y a peut-être aussi de nouvelles ères qui arrivent sur le pas de Colomb, qui paraissent insignifiants. Et puis, finalement, ça dit quelque chose de profond. En tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Ce sont des églises qui sont à vendre sur le bon coin. On a le cas de deux églises, hein, l'église Saint-Édouard et l'église Baptiste. Ça se passe à Lens. Lens, ce fameux bassin minier, ville connue pour son club de foot, et qui sont à vendre, donc, je le dis bien, sur le bon coin, comme si vous pouviez acheter n'importe quel autre type de bien immobilier. Alors, qu'est-ce que ça peut renvoyer ? À quoi cela peut-il renvoyer ? Je cherche à dans l'annonce immobilière ce qui peut nous intriguer, plonger dans l'histoire avec ce bien d'exception, plein de charme et de caractère, niché dans un environnement paisible et préservé. On sait que la poésie des agents immobiliers est infinie, avec un prix qu'on peut discuter, 362 000 euros pour cette église Saint-Édouard. Est-ce que vous proposerez quelque chose ? 362 000 euros.
C'est négociable, hein, je pense, Laurent. Vous avez l'air intéressé, mais je pense que vous pouvez obtenir un petit rabais.
Classé au titre des monuments historiques quand même.
Ah oui, donc oui, mais on ne peut pas faire beaucoup d'aménagements, dans ce cas-là, c'est un problème.
Eh oui, c'est peut-être un frein ou un levier de négociation.
Non, mais l'expression « les marchands du temple » est ici à prendre au sens littéral. Voilà. En plus, il y a un côté douloureusement caricatural, le bon coin, c'est-à-dire tout se vend sur le bon coin, pourquoi pas une église ? Donc il y a un côté... je trouve que la spiritualité mise à l'encan de la matérialité, du matérialisme le plus débridé, moi je trouve ça extrêmement douloureux. Vous voyez, je me pose même pas au point de vue de la religion, je trouve que c'est vraiment problématique. Après, il faut bien dire que c'est en rapport avec le recul du christianisme en France, évidemment. Et puis, vous avez mentionné que c'était...
À
Lens, mais un bâtiment du patrimoine. Donc là, je voudrais bien savoir...
Oui, pour l'église, en tout cas, pour l'église Saint-Édouard...
Je ne comprends pas, parce que si on l'achète, il faut conserver le lieu dans l'état. On ne peut pas faire de travaux, par exemple.
Il doit y avoir des servitudes. Oui. Elle est construite au milieu d'un groupe scolaire de l'école catholique des Mines, avec le presbytère et les logements de la direction. Elle est consacrée à Saint-Édouard, patron d'Édouard Bollaert. On sait que le nom de Bollaert compte à Lens. Directeur de la Compagnie des Mines de Lens pendant 42 ans. Donc elle a une histoire aussi patrimoniale, même en dehors de son caractère strictement catholique. Alors que peut-on en faire dans le cadre d'une transaction ? Ça, je ne sais pas.
Enfin, toujours est-il que, sans entrer dans les détails, le symbole est ravageur. je trouve, le symbole ravageur. Et puis, on parlait du passé totalitaire tout à l'heure, ça rappelle des mauvais souvenirs. En Albanie, en Union soviétique, où on transformait les églises en musées du prolétariat, ou à la gloire du communisme.
On l'a fait en
communisme.
France pendant la terreur.
Et malheureusement, dès qu'on parle du totalitarisme de l'Est, il faut bien parler du totalitarisme de la deuxième partie de la Révolution française. Ça rappelle quand même des mauvais souvenirs. C'est désastreux à tout point de vue.
Moi, y compris le trajet de Paris.
C'est très choquant.
Oui, y compris notre adversaire. En plus, on prenait les cloches pour faire des boulets.
Très choquant tout ça.
On a besoin de faire la guerre. Mais c'est vrai que ça traduit le recul de la pratique religieuse, je suppose, parce que cette église, elle devait être consacrée, il devait y avoir des fidèles. Et quand on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de fidèles, on s'est dit, bon, on ne peut pas supporter les frais d'entretien. Je pense que c'est ça.
Mais oui, c'est sans doute la mécanique. Hein. C'est moins de prêtres, moins de fidèles mécaniquement. Et donc, un patrimoine.
Mais si l'église n'est plus consacrée, je crois que c'est le mot juste.
Oui.
Bon, ça devient un bâtiment comme un autre, quand même. Même
s'il
y a
faut
un souvenir, il y a un style, etc. Mais quand même...
Il faut le désaffecter.
Oui, alors je pense que c'est le cas.
Alors,
on ne va pas vendre l'âme du Christ en même temps que le, non, que
ça
le bâtiment.
Ça veut dire qu'à Lens, l'église qui reste et qui, elle, fait le plein chaque week-end, c'est le stade Bollaert de Lens. où là, il y a le peuple qui vient communier. Il y a une communion, c'est extraordinaire quand même, l'ambiance, le stade Bollaert. Donc là, il y a un résumé de l'époque qui est tout à fait frappant. Voilà.
Est-ce qu'on sait comment faire revenir le peuple dans les églises, Éric Nolot, Laurent Geoffrin?
Non, je ne pense pas qu'il y ait des mesures à prendre. Simplement, je crois qu'une société dont la seule angoisse métaphysique porte sur la prochaine date des soldes, ça ne peut pas durer. Donc il y aura un retour vers une forme de transcendance, de verticalité, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, le vautrer dans la bouche du matérialisme. Voilà, je crois. Donc c'est pas la peine de prendre des mesures. Je pense qu'il y aura un retour de religion, mais de transcendance. D'ailleurs, elle s'observe aujourd'hui. C'est pas vers la religion chrétienne, mais c'est vers d'autres formes de spiritualité. Je pense que l'Église a de beaux jours, paradoxalement, devant elle. Ça va revenir, parce qu'on ne peut pas, rester éternellement, c'est le cas de le dire, dans cette voie qui ne mène nulle part du matérialisme.
Aujourd'hui, ça se déverse dans l'hypermarché et le stade. Mais peut-être que ça changera.
Oui, mais oui. Je ferais courir.
Enfin, Laurent Geoffrin.
Amender, si je peux me permettre, le propos. Parce que les Européens croient à certaines choses qui les dépassent. Ils ne sont pas seulement matérialistes. C'est une civilisation très matérialiste, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'idée qu'on défend une certaine conception de la vie en société, de l'humanité, et que, on est là, que ça donne des devoirs civiques. Et l'idéologie républicaine, il y a une mystique républicaine qui est faite de l'histoire. Et tous les gens qui sont morts pour cette idée-là.
Et qui est en partie adossée à l'histoire catholique, quand même.
Oui, il y a un point de recouvrement dans les principes.
Un passage de témoin.
Si on lit la Déclaration des droits de l'homme, ça ressemble à certains égards, même dans la forme, à ce qu'était le...
J'aimerais avoir votre optimisme.
Le décalogue. Hein. Et donc les gens croient à ça.
Les droits de l'homme, c'était des tables de la loi. Hein.
Comment ?
C'était présenté sous forme de table de la loi.
Oui, absolument. Et ça se ressemble. C'est-à-dire que l'idée qu'on ne peut pas faire à autrui ce que vous ne voulez pas qu'il vous fasse, c'est une idée qui a été inventée par les religions du livre. Et ensuite qui a été reprise, laïcisée par les républicains ou par les partisans des droits de l'homme. Donc c'est vrai qu'il y a une filiation. Mais c'est devenu religieux, laïque. Quoi. Mais il y a quand même une mystique. Ça, et d'ailleurs, je constate que, par exemple, les engagements dans l'armée française ne sont pas du tout effondrés, malgré le matérialisme et l'égoïsme supposé des Français.
C'est ce que je vous dis, c'est le retour.
Il y a beaucoup de gens qui veulent défendre leur pays.
Voilà.
C'est honorable.
Enfin, la mystique que vous voyez avec beaucoup d'optimisme, moi, elle me semble...
Oui, je suis très optimiste.
Oui, écoutez...
je suis désavoué par la réalité constamment. Mais...
Vous connaissez la vieille blague sur les Juifs pendant la guerre. Hein. Voilà, les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes à Hollywood. Donc moi, je préfère rester du côté des pessimistes. Mais j'observe que la double mystique là, que vous mettiez en évidence, elle est attaquée par l'extrême gauche qui est à la fois opposée à l'Église et à la République, qui essaye de détruire la République et qui s'oppose à l'Église. Donc en fait, cette mystique, elle n'est vraiment pas dans une grande forme en ce moment, au contraire. Et elle est attaquée par des gens de plus en plus puissants, dont le succès électoral grandit d'élection en élection. Donc c'est pour ça qu'il faut d'autant plus la protéger et se battre pour la protéger.
Éric Nolot, que Trump a vaincu chez lui ? Parce que le wokisme, la cancel culture, etc., c'était le point de fixation aussi qui a permis peut-être à Trump d'avoir un marchepied électoral.
Ça leur donne des arguments, c'est sûr.
Oui, vous savez que pour m'avoir lu, je suis un anti-wokiste forcené. Maintenant, je ne veux pas tomber dans le simplisme « les ennemis de mes ennemis sont mes amis », parce que si vraiment le choix, c'est entre le trumpisme et le wokisme, alors vraiment, on est encore plus mal barré que je croyais.
En plus, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que pour les trumpistes, dès que vous dites « il vaut mieux que les hommes et les femmes soient égaux en droit », vous êtes wokiste. Hein. Le wokisme, c'est une étiquette qu'on met sur n'importe quoi. Dès qu'on dit il faut promouvoir les minorités qui ont des handicaps sociaux ou culturels, on est wokiste. Donc c'est un terme qui est maintenant employé à tout propos pour en fait délégitimer, réfuter
disqualifier
toutes les idées progressistes.
Oui, enfin, il n'empêche.
Mais c'est vrai qu'ils ont servi de.
Non, mais le wokisme aux États-Unis, c'est dément. Écoutez-moi, ouais. Pour des raisons personnelles, je vais chaque année à Minneapolis. Bon, état plutôt démocrate. Donc je vais toujours dans les mêmes lieux, donc je vois l'observation. La dernière fois, je vais dans mon café favori, il y a une étiquette en bas. Évitez de vous adresser au personnel de manière genrée pour éviter les traumatismes. C'est-à-dire que si vous dites mademoiselle, mais en plus ça blague pas là-bas, hein. Ça peut vous attaquer en justice. Ou alors, si vous dites votre collègue, est-ce que he or she. Oh là là. Donc oui, on était arrivé à ce point de délire.
Oui, c'est ridicule.
Où, non, mais c'était vraiment grotesque. Donc en fait, c'était tellement grotesque que des gens se sont tournés vers Trump, même des gens inattendus, les latinos, l'électorat noir, etc., etc. Donc effectivement, il y a peut-être un peu, on met tout dans le même sac du wokisme, mais je peux vous dire qu'aux États-Unis, pour en être l'observateur annuel, on était arrivé à un point de délire auquel Trump a mis fin, mais malheureusement avec les excès du trumpisme en échange.
Merci beaucoup à tous les deux. Éric Nolot, Laurent Geoffrin d'avoir participé à ce débat. Laurent Geoffrin, journaliste, essayiste et fondateur du média numérique lejournal.info. Éric Nolot, écrivain, critique littéraire et chroniqueur. Merci et à bientôt pour un prochain grand débat, je l'espère, avec vous deux pour commenter l'actualité si riche. Je vous souhaite une excellente journée et bonjour Melchior Gormand.
Bonjour Louis Dauphren, bonjour à toutes et à tous. Dans un instant, c'est Je pense donc j'agis avec Stéphanie Gallet. On va revenir sur quelques sujets de l'actualité de l'écologie du mois de février. Je vous donne le programme dans un instant. Notez seulement qu'à partir de 11h, on évoquera aussi les allergies au pollen et également l'asthme. On essaiera d'agir avec des personnes justement qui font partie d'associations. Bref, le programme dans un instant avec vos appels toujours en direct. À tout de suite.